Et au menu de notre club aujourd'hui, les bizarreries de la langue française, les curiosités de la mesure du temps et de jeunes talents scientifiques. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une étude sur les stéréotypes de genre qui ont la vie dure.
Oui, et qui malheureusement apparaissent très tôt durant l'enfance. Une étude suggère que dès 6 ans, les petites filles ont du mal à imaginer une femme lorsqu'on leur parle de quelqu'un de très intelligent. On essaye de comprendre pourquoi avec le sociologue Éric Fassin.
Stéphanie Texier réalise ce club qui a été préparé par Chantal de Montagnier aujourd'hui avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités Mariama Maman, Joshua Meyer, Richard Herlin et Olivier Marchand. Bonjour.
Bonjour
à tous les quatre. Bienvenue. La semaine des jeunes talents scientifiques internationaux se termine aujourd'hui même à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Mariama Maman, vous venez du Niger, Joshua Meyer des États-Unis. Dans quel domaine, alors justement, est-ce que vous exercez votre talent, Mariama? Avant d'en parler plus longuement tout à l'heure.
Ok. Je suis ingénieure en eau assainissement et spécialiste en traitement biologique des eaux et de valorisation des déchets organiques.
Ouais, on va parler de votre action justement très intéressante et intelligente d'ailleurs au Niger. Et vous, Joshua, de quoi est-ce que vous occupez?
Je suis doctorant dans l'université d'Arizona et je suis un peu entre informatique et linguistique. Ouais. Je travaille avec les reconnaissances vocales.
Voilà, on parlera non seulement de votre domaine, mais également de ce qui se passe aujourd'hui autour des sciences dans votre pays. Richard Herlin, vous publiez chez Flammarion « Retour sur l'accord du parti passé, autre bizarrerie de la langue française » avec Olivier Houdard et Martine Rousseau. C'est donc possible de se réconcilier avec le parti passé?
Oui. Oui. Une première précision, moi je ne suis pas un jeune talent scientifique.
Ne vous justifiez pas.
Oui, on peut se réconcilier avec le participe passé.
Oui, on compte sur vous en tout cas pour nous sortir de l'enfer de certaines règles de grammaire. Olivier Marchand, vous êtes l'auteur du livre Le 30 février et autres curiosités de la mesure du temps. On découvre des choses très amusantes. Par exemple, les Éthiopiens ne sont pas en 2017 en ce moment.
Non, les Éthiopiens sont en 2009.
Oui.
En fait, ils considèrent que la naissance du Christ est arrivée 8 ans après ce que nous considérons, moyennant quoi ils ont un petit décalage par rapport à nous.
Oui, un petit décalage. Oui. Oui. On va parler de secondes et de minutes avec vous. Là, c'est un décalage sérieux. On se retrouve dans un instant donc avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. À quel âge naissent les stéréotypes de genre et comment une étude américaine qui vient de paraître tente de répondre à cette question? Et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Non, je préférerais plutôt être réalisateur.
J'hésite un peu entre maîtresse ou vétérinaire.
Sage-femme. J'ai des petits bébés et on les soigne. Un métier de fille.
Et pour commenter cette étude, Éric Fassin est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Éric Fassin, vous êtes sociologue spécialiste de la question du genre, professeur à l'École normale supérieure, et vous êtes donc là pour commenter ce travail de 3 psychologues américains publié cette semaine. Ils suggèrent que c'est au moment de l'entrée à l'école, justement, que s'installent les préjugés tenaces entre les carrières féminines et masculines, préjugés qui influencent, on va le voir, le choix des jeunes filles ou des jeunes garçons. Éric Fassin, expliquez-nous d'abord comment ont procédé ces 3 psychologues pour en arriver à cette conclusion.
Eh bien, ce sont des enquêtes d'abord auprès d'enfants, et ce sont des enfants dont on a essayé de mesurer les réponses à travers un ensemble de tests qui ressemblent un peu à des jeux, mais à des âges différents, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Et c'est ce qui permet de vérifier combien le fait d'associer l'intelligence plus volontiers aux garçons qu'aux filles, aux hommes qu'aux femmes, que ce soit chez les filles ou que ce soit chez les garçons, eh bien, c'est quelque chose qui va intervenir petit à petit, ou plutôt soudainement, quelque part entre 5 ans et 7 ans, c'est-à-dire, en gros, à l'âge où on entre à l'école.
C'est la seule explication quand on dit c'est entre 5 et 7 ans, on pense tout de suite à l'école, mais est-ce qu'on peut en trouver une autre?
Il y a une explication qui n'est pas simplement les stéréotypes que peut éventuellement propager l'école, mais il y a aussi autre chose, c'est la question qui est posée, qui est celle de l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire ces capacités intellectuelles qui vont être mesurées, qui vont être évaluées, c'est précisément de ça que parle l'école. Donc, en un sens, ce qui est intéressant, c'est de voir que le moment où on entre à l'école, c'est le moment où on commence à prendre pleinement au sérieux l'importance sociale de l'intelligence, et c'est à ce moment-là que vient se greffer là-dessus une représentation genrée, c'est-à-dire différenciée selon les garçons et les filles, qui associe plus d'intelligence aux garçons qu'aux filles.
Alors, Éric Fassin, justement,
elle introduit une valeur.
Alors, ils ont raconté justement, les scientifiques, une histoire aux enfants autour d'un personnage intelligent, pour qu'on comprenne bien comment ils ont mené l'étude.
Voilà, c'est une manière, en fait, évidemment, puisqu'on n'est pas en train de poser des questions d'une complexité extrême à les enfants, on le fait à travers des récits, à travers des images, donc on essaie d'avoir des réponses extrêmement concrètes, c'est-à-dire à parier éventuellement des qualités à des personnes telles qu'elles sont représentées dans ces histoires. Donc c'est ce travail-là de mettre en relation les choses qui permet de voir les stéréotypes implicites, mais qui sont déjà présents à cet âge-là, qui se mettent en place à cet âge-là.
Ils ont fait la même chose avec une autre qualité qui est la gentillesse. Ils ont raconté l'histoire d'un personnage gentil et ensuite ils ont demandé aux enfants de choisir parmi deux photos, un homme et une femme, quel était le personnage dont on venait de raconter l'histoire. Et là, pour le coup, on choisit plutôt un personnage féminin quand on parle de gentillesse. Donc c'est pas en lien simplement avec l'intelligence.
Ben, ce qui est frappant, c'est que en fait, on n'est pas surpris. On pourrait presque d'avance prédire, avant même l'étude, que les garçons vont être associés davantage à l'intelligence et les filles à la gentillesse. Comment ça se fait qu'on est capable de le faire ? Eh bien, précisément parce que on a non pas les causes, mais les conséquences de cette expérience. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais on sait bien le résultat. Et le résultat, c'est que petit à petit, les filles, elles vont s'orienter en fonction de ces stéréotypes, et les garçons aussi. Autrement dit, il y a des conséquences sociales qui sont bien sûr redoublées par des pratiques quotidiennes qui peuvent être celles des profs, qui peuvent être celles des parents, qui sont celles de la société tout entière. Tout le monde comprend bien qu'il y a des rôles différents assignés aux garçons et aux filles. Donc on voit les conséquences, et ces conséquences, eh bien, c'est ça qui finalement devient la cause, c'est-à-dire c'est ça qui permet de comprendre pourquoi les enfants si jeunes ont déjà compris comment ça marche, c'est-à-dire ont déjà compris le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ont réussi à reprendre à leur compte des stéréotypes qui sont des stéréotypes adultes.
Mais alors pourquoi à 5 ans, l'enfant va choisir naturellement une image qui correspond à son propre sexe ?
Eh bien, parce que le genre, ça n'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est quelque chose qui va s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail social pour faire en sorte que nous finissions par épouser une vision du monde qui est fondée sur cette représentation inégalitaire. Donc dans un premier temps, ça n'est pas naturellement en quelque sorte qu'on se représenterait que les garçons sont ceci et les filles sont cela. Il va falloir l'apprendre. Donc spontanément, eh bien, les garçons, une fois qu'ils ont compris qu'il y a une différence entre les garçons et les filles, de même que les filles comprennent qu'il y a une différence entre les garçons et les filles, ils vont s'identifier d'abord à leur sexe. Ce qui bascule, c'est qu'on va pouvoir ensuite comprendre que cette différence, elle est hiérarchique. Et cette hiérarchie, eh bien, c'est celle qui institue ce qu'on peut appeler le genre.
Et comment on lutte alors contre ces stéréotypes à l'école au tout début ? Est-ce qu'on peut essayer de cibler des domaines particuliers ? Je ne sais pas, la grammaire, les manuels scolaires ?
On a un exemple intéressant, c'est qu'il y a eu en France ces dernières années des tentatives, en particulier autour de ce qu'on a appelé les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire une volonté de toucher aux stéréotypes de genre. Et c'est précisément ça qui, vous vous en souvenez, a soulevé une levée de boucliers. Alors pourquoi y a-t-il une telle hostilité ? Parce qu'on nous dit, bien sûr, on est contre l'égalité, on est pour l'égalité, pardon, mais on est contre ce qu'on appelle, de manière tout à fait impropre, la théorie du genre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je veux bien de l'égalité, mais je veux pas du genre. Or, c'est le genre qui va instituer l'inégalité. On ne peut pas comprendre comment une société qui revendique systématiquement l'égalité finit par être aussi inégalitaire en matière sexuelle. On ne peut pas le comprendre si on ne passe pas par ces représentations. Mmh. Et ces représentations, c'est pas seulement des images, c'est pas seulement des discours, mais ça vient se concrétiser, ça vient se cristalliser dans des tas de pratiques sociales et dans des institutions, y compris dans les manuels scolaires.
Mmh. Richard Herlin, évidemment, je vais vous faire réagir parce que l'égalité des mots, c'est important. La féminisation, d'ailleurs, des mots, hein, vous en parlez aussi.
Oui, tout à fait, oui. Et là je dis, enfin, je suis très content d'entendre ça parce que ça conforte ce dont on parle. Il y a un chapitre consacré au féminin, le mauvais genre féminin, parce que notamment on entend cette petite fille à qui on demande ce qu'elle voudrait faire plus tard et qui dit « je voudrais être maîtresse ou vétérinaire
ouais. ».
Alors on a deux mots, on a maîtresse qui est un féminin, puis on a vétérinaire qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un mot épicène, c'est-à-dire on peut dire un ou une vétérinaire. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment par exemple l'Académie française s'est élevé contre la féminisation des noms de professions, etc.
Ouais.
Alors maîtresse, par exemple, ça passe parce que cette petite fille, on imagine qu'elle parle de la maîtresse qu'elle a en référence, c'est-à-dire une institutrice. Mmh. En revanche, dès lors, par exemple, qu'on va écrire maîtresse de conférence, certains disent, ah oui, on peut dire une maîtresse de conférence. Ouais. Alors il y a dans ce suffixe S, comme ça, il y a quelque chose de diminutif, d'un peu péjoratif, et donc on renacle. Et de la même façon, alors c'est là où la question, parce que on parle de théorie du genre, il y a un genre grammatical prétendu neutre et dont on nous dit, bon, il correspond au masculin français. L'abbé Bourse disait que c'était ce masculin qui l'emportait sur le féminin parce que c'est le genre noble. Ouais. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, que peut-être pour la construction du genre, il faut autoriser les petites filles à penser qu'on peut devenir, par exemple, directrice
ou autrice.
Autrice
pour auteur.
Hein. Autrice ouais. ou chercheuse.
Absolument.
Et voilà, et c'est là que le langage est important.
Axel, dernière question très vite.
Peut-être un mot de la cohorte de cette enquête. 400 enfants au total, majoritairement blancs, issus des classes moyennes américaines. On peut vraiment conclure une fois qu'on a une population de 400 enfants seulement ?
Éric Fassin.
La question est peut-être moins de la taille de l'échantillon, mais plutôt de sa composition. Parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, il s'agit d'enfants de classe moyenne blanche. On peut se poser la question, est-ce que la valorisation des capacités d'intelligence est la même dans tous les milieux sociaux ? Est-ce qu'elle est la même selon qu'on parle des blancs et des noirs aujourd'hui aux États-Unis ? C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui vont instituer le genre et qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Après tout, se faire traiter d'un télo dans une cour de récréation, c'est-à-dire être accusé d'être intelligent, ça peut exister aussi, et on peut renvoyer l'intelligence du côté des gens efféminés. Donc l'essentiel n'est pas, à mon sens, la qualité elle-même, mais le fait que de toute façon on va mobiliser ces qualités dans un ordre hiérarchique qui est celui du genre.
Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Éric Fassin, spécialiste donc des questions du genre à l'occasion de cette étude parue cette semaine. Et merci beaucoup Axel.
À lundi,
reposez-vous. Allez. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'Union européenne qui devrait tenir ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Parmi les objectifs énergie-climat que l'Union s'était fixé en 2008, celui d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans sa consommation finale en 2020, eh bien ça devrait être accompli. La part des énergies renouvelables dans notre consommation étant estimée à 16,4% en 2015. Cependant, il faut noter de fortes disparités. La Suède et la Lettonie font figure de modèle avec respectivement 54 et 39%. Et la France, elle, est à la traîne avec 14%, soit 2 points de moins que son objectif. Le soft rock et le reggae qui apaisent les chiens, c'est un constat tiré d'une étude à paraître dans le prochain numéro de Physiology Behavior. Des chercheurs de l'université de Glasgow ont exposé une quarantaine de chiens à 5 styles de musique différents. Ils ont alors observé qu'ils passent plus de temps couchés et que le nombre d'aboiements diminue durant ces périodes de diffusion. De plus, l'observation de leur fréquence cardiaque indique une diminution du stress, en particulier en écoutant donc du reggae et du soft rock. Du coup, la SPA écossaise a décidé de placer des enceintes dans tous ses refuges. Et puis Greenpeace publie les premières photos d'un récif de corail méconnu découvert l'année dernière au large de l'Amérique du Sud, un récif corallien de 9500 km² qui s'étend sur plus de 1000 km du Brésil à la Guyane française. Contrairement aux autres récifs qui prospèrent dans les eaux salées et laissant passer la lumière, ceux-ci sont situés à l'embouchure du fleuve Amazone qui charrie une eau douce et boueuse. Et vous retrouverez ces photos sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, c'est le club dans un instant avec mes invités.
Shade ain't a place I can see.
Jaguar Ma avec Obi-Wan à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Voilà, au menu de notre club aujourd'hui, les bizarreries de la langue française, les curiosités de la mesure du temps et puis de jeunes talents scientifiques avec lesquels justement nous commençons aujourd'hui, puisque cette semaine a vu la visite à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte de 42 jeunes talents scientifiques venant de 26 pays, parmi lesquels Mariama Maman, ingénieure des eaux et assainissement, vous êtes nigérienne, et Joshua Meyer, vous êtes informaticien et linguiste américain. Et donc cette semaine des jeunes talents scientifiques se termine aujourd'hui. Vous étiez donc nombreux, jeunes hommes et femmes entre 18 et 28 ans, à passer cette semaine à Paris. Quel était le but exactement de votre venue, Mariama? Qu'est-ce que vous avez fait exactement alors à Paris?
À Paris, c'était des échanges, surtout en lien avec la médiation scientifique, comment faire la promotion de la science au public, puisque de nos jours, peu de gens savent des domaines scientifiques et consorts. Donc, du coup, au cours de cette semaine, nous avons vu comment est-ce que on peut faire de large diffusion de la science.
Ouais.
Oui, et également, cette rencontre était vraiment de vouloir concilier beaucoup de jeunes pour mieux construire l'avenir, à mon sens.
Ouais.
Parce que nous avons tous plein d'idées et plein de projets.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'on va voir avec vous d'ailleurs dans un instant, avec cette initiative que vous avez eue pour votre pays, le Niger. Joshua Meyer, alors vous, la diffusion de la science, il va falloir y aller en rentrant aux États-Unis. Vous avez du boulot avec le contexte trumpien.
Ouais, ça c'est sûr.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait alors vous, en particulier là, cette semaine? Il y a vraiment cet aspect échange entre les scientifiques?
Oui, comme je disais, il y avait des enseignements, comment on peut vulgariser notre recherche, parce que c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans le monde. Il y a des connaissances chez les chercheurs et si on n'arrive pas à transférer ces connaissances et les gens qui comprennent pas, il y a des méfiances dans la science. Et bon, cette semaine, on a réussi un peu à apprendre comment transférer les connaissances. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'était la transfert des connaissances entre les jeunes chercheurs, scientifiques, parce qu'on est tous, c'est vraiment des pays différents.
Ouais. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que cette semaine prend justement un écho tout à fait particulier avec les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la science dans votre pays, aux États-Unis?
Ouais. Franchement, on parlait de ça avec moi. Bon, il y avait une autre américaine, on était des représentatifs. Et bon, il y avait bien sûr beaucoup de questions à propos de qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Et je ne sais pas trop. Bon, la question, c'était quoi exactement?
Que cette semaine a un rôle important dans le contexte américain
en ce moment. Oui, c'est
sûr. Pour justement affirmer aussi l'importance de la science.
Oui. Moi-même, je me sens plus engagé et plus prêt à essayer à faire quelque chose, parce que il y avait beaucoup de gens qui font chez nous des jeunes chercheurs qui travaillent sur le chauffement climatique, et on voit que c'est très important dans les pays. Dans les pays du monde, mais chez nous, c'est déjà quelque chose qui est un peu, je sais pas...
Remis en question.
Remis en question, ouais. Exactement.
Vous avez une consoeur iranienne qui est avec vous aussi
Oui, c'est ça. Et avec tout ce qui se passe avec je sais pas le mot en français, le ban de musulmans.
Ouais. L'interdiction, en tout cas, de rentrer aux États-Unis.
Exactement.
Pour ces 7 pays.
Moi, j'ai des très proches amis à moi qui font de la recherche, des doctorants, et ils sont d'Iran, c'est des Iraniennes, et ils peuvent pas partir, ils ont peur que s'ils partent des États-Unis, ils peuvent pas rentrer, donc ils sont bloqués. Et c'est pas que eux. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pendant les vacances d'hiver dans leur pays et pouvaient pas rentrer. Et il y avait beaucoup de scientifiques.
Oui. Ouais. Donc une situation assez préoccupante hein, en ce moment. Et puis cette marche annoncée pour le 22 avril, oui. Hein, une marche pour la science, oui. À l'initiative d'un groupe de Washington, et qui prend une ampleur extraordinaire. On voit des comptes Twitter dans tous les États américains, et puis également dans le reste du monde. Il y aura une marche aussi dans des villes françaises. Vous comptez vous y participer, Joshua, a priori vous serez en France encore ou vous allez rentrer aux États-Unis?
Je serai en France encore.
Ouais, puisque vous êtes là depuis quelques mois, on va parler de vos recherches.
C'est ça.
Dans un instant. Mariama Maman. Alors, vous êtes spécialiste dans le traitement biologique des eaux polluées, dans la valorisation des déchets, et vous avez fondé une start-up au Niger. Qu'est-ce que vous développez alors dans cette entreprise exactement?
Dans cette entreprise, nous travaillons pour développer un engrais organique pour la promotion d'une agriculture saine et durable. Et tout part d'une plante, je dirais simple plante, mais à la fois un fléau.
Oui. C'est la jacinthe d'eau, cette plante. Oui, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pose un grave problème environnemental au Niger?
Le premier problème qu'elle pose est lié à la biodiversité aquatique, puisqu'elle se trouve à la surface de l'eau et du coup, elle asphyxie la flore et la faune aquatique. Et également, c'est le lieu de prolifération des larves de moustiques responsables du paludisme, qui tuent environ 3000 personnes par jour, rien qu'en Afrique subsaharienne.
Absolument,
oui. Oui.
Et donc, le but, c'est d'éradiquer cette plante dans un premier temps?
Oui, pas l'éradication, parce que en elle-même, elle est un fléau, parce que c'est lié à sa physiologie. Et donc, on va essayer de l'exploiter, je dirais. Puisque profiter du mal qu'elle fait et le rendre en une opportunité.
Ah, vous allez transformer les choses alors, vraiment. Et vous allez faire quoi alors avec exactement?
Exactement, nous allons travailler à l'échelle d'une usine où nous allons transformer cette plante à travers un processus de compostage. Et là, au cours du processus, à la fin, nous aurons un fertilisant pour l'agriculture et également, ce qui est révolutionnaire, c'est au cours du processus, nous avons du biogaz et le biogaz sera transformé en énergie électrique.
Ouais, donc on peut dire que de cette plante nuisible, vous allez créer de l'électricité en fait, c'est ça?
Oui. Et l'électricité est encore très importante pour nous dans nos pays africains et surtout pour l'éducation parce que nous savons beaucoup de villages se trouvent privés du courant et du coup nous voulons vraiment amener le courant vers ces zones rurales.
Est-ce que vous avez plein de gens qui vous encouragent au Niger dans cette initiative?
Oui. Ouais. Et j'aimerais profiter également de l'occasion pour remercier Monsieur Marcel Escure, l'ambassadeur de France au Niger, et également le Désir qui me soutiennent sur ce projet. Et également, j'aimerais lancer un vif appel pour des partenaires internationaux, parce que nous avons réellement besoin de partenaires pour vraiment développer ce prototype que nous envisageons. Et effectivement, ce combat, pour moi, je le dis tout le temps, c'est le combat de tous, parce que en un problème, nous pouvons avoir plusieurs solutions et au-delà.
C'est de voir le bon côté des choses aussi et de se servir d'un problème pour le transformer et puis créer des emplois aussi et motiver les femmes du Niger. Oui. Ça, c'est un autre aspect aussi de votre démarche. Donc, l'appel est lancé.
D'accord.
Et j'espère que des auditeurs pourront vous aider, vous qui allez rentrer donc dès demain au Niger pour poursuivre l'action de votre start-up. Oui. Joshua, un mot sur votre travail parce que vous êtes à la fois informaticien et linguiste, deux disciplines qui spontanément ne vont pas forcément ensemble comme ça. Hein. Comment vous travaillez
alors? Je pense que les linguistes aujourd'hui travaillent presque tous avec l'informatique un peu. Donc moi, ce que je fais, c'est je travaille sur les technologies pour les langues peu dotées.
C'est-à-dire quelle langue, par exemple?
Bon, je travaille avec la langue kirghize. C'est Kyrgyzstan.
Oui, d'accord.
C'est entre Kazakhstan, Ouzbékistan.
Vous la parlez, cette langue?
Non, pas trop, quelques mots, mais là-bas, je parle russe. Et donc, là-bas, à cause du fait que c'est un pays ancien de l'Union soviétique, pour le russe, ça va.
Et quel est le rôle de l'informatique alors, autour de ce travail linguistique?
Je fais des recherches pour développer les reconnaissances vocales et les synthèses voix. Et en fait, normalement, on a besoin de beaucoup d'enregistrements, beaucoup de données, avec les sous-titres, avec les transcriptions alignées. Mais avec les langues peu dotées, c'est un peu difficile à trouver ces données. Et c'est très cher à créer. J'essaie à trouver ce que j'ai et puis adapter les systèmes qui déjà existent.
Pour aider des personnes particulières
hein. Oui, je travaille avec une organisation des aveugles en Kyrgyzstan. En fait, ils utilisent normalement en Kyrgyzstan les ordinateurs, les smartphones en russe. Parce que c'est
La langue la plus proche de la leur hein.
C'est pas plus proche parce que Kyrgyz c'est une langue turque, russe et slavique. Donc c'est que à cause du fait qu'on peut facilement télécharger les applications qui fonctionnent en russe comme. Si on a un smartphone et on est aveugle, c'est très difficile à utiliser. Mais s'il y a des logiciels qui lirent tout ce qu'il y a là dans l'écran, ça aide.
Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes aveugles du Kyrgyzstan à pouvoir utiliser
les technologies,
les ordinateurs, par
exemple.
Dans
leur langue.
Avec cette langue, évidemment. Hein.
Exactement, ouais. C'est ça. Et c'est ce que je fais actuellement.
Voilà, deux exemples de talent, hein, puisqu'il y en avait d'autres. Vous étiez 48 cette semaine à Paris. Hein. Aujourd'hui s'achève votre semaine. Vous allez visiter le Musée de l'Homme, d'ailleurs, cet après-midi, la Fondation Louis Vuitton, avant de repartir, vous, au Niger, Mariama. Et puis vous, Joshua, vous restez encore un petit peu en France, hein, puisque vous travaillez avec des scientifiques de notre pays. Vous restez avec nous. Justement, on va parler de langue française dans un instant et de la mesure du temps.
Tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais, tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais, il faut sauter dans le grand bain, tout en toi m'a percuté, c'est un foutu coup du destin. Car moi je n'oserais jamais. Il suffit d'un instant, clap de fin, le train s'est barré. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit, je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Dis-moi ton secret, je les cacherai sous mon lit. Me tente à en trembler, tous mes signaux sont envoyés. Ne perdons pas notre temps, sois un homme et ferme à border. Tape sur l'épaule du destin, il te mènera jusqu'à moi. Laisse-le te guider, il te jettera dans mes bras. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon.
Dis-moi ton secret, la voix d'Olivia Ruiz sur France Inter.
Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe. Faux ! Les gens qui écrivent bien, ceux qui font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que t'as écrit. Légumes. Accent aigu et légumes. Soupe. Mais t'as écrit soupe avec 5 P ! Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, mais je pense que ça doit juste être une faute de stylo.
Voilà, Norman, pour introduire notre sujet sur l'orthographe et la grammaire, Richard Herlin, vous êtes correcteur pour lemonde.fr et co-auteur de ce livre « Retour sur l'accord du participe passé, autre bizarrerie de la langue française », écrit avec Martine Rousseau et Lévi Houdard et qui paraît donc aux éditions Flammarion. Alors, racontez-nous d'abord, moi j'aimerais bien savoir ce que vous faites en tant que correcteur d'orthographe. C'est un métier qui existe, évidemment, et qui est très important et qui n'est pas menacé justement par les correcteurs orthographiques aujourd'hui ?
Non, pas vraiment.
Non ?
Non. Donc c'est pas un emploi fictif, c'est on a vraiment du travail.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y aura une question, tiens, à ce sujet-là. Je vous la donnerai tout à l'heure, une question d'orthographe. Oui.
Et c'est un métier qui finalement a toujours existé. Enfin, à partir du moment où l'écrit est apparu. Alors, d'autant plus quand on a eu l'imprimerie qui a permis de reproduire de nombreux exemplaires de textes. Et donc les correcteurs ont toujours existé. À l'origine, souvent des étudiants qui allaient dans les imprimeries. Les imprimeurs étaient éditeurs et donc ils allaient dans les imprimeries pour corriger les textes. Et ça continue.
Oui.
Alors ça continue parce que effectivement tout le monde continue de faire des fautes.
Même les journalistes de presse écrite.
Alors, c'est ce que je vous dis. Pensez-vous qu'on pourrait nous employer à ne rien faire?
C'est ça.
Oui. Non, il y a les journalistes, et c'est normal, je dirais, parce que les journalistes sont des gens qui passent leur vie à écrire. Et donc, alors je sais pas si les scientifiques me contrediraient, mais il me semble que statistiquement, plus on écrit, et plus il y a le risque de faire des fautes.
Alors, le risque, oui, est plus élevé.
Il est plus élevé.
C'est vrai. Mais en même temps, il y a la pratique qui devrait faire qu'on apprend aussi quand même.
Alors oui, mais c'est compliqué parce qu'on se rend compte, que la pratique, alors on dit ça parfois, mais ça peut se régler, l'orthographe, ça peut se régler en lisant beaucoup, en écrivant beaucoup. Et est-ce que c'est vraiment vrai?
Faut surtout comprendre les règles.
Hein. Et puis il y a les règles. Mais par exemple, c'est pour ça que je dis, prenez quelqu'un comme Flaubert. On considère quand même que c'est un grand écrivain français.
Il faisait beaucoup de fautes d'orthographe.
Alors, au sortir de la Première Guerre mondiale,
ouais.
Il y a eu toute une histoire qui a agité le milieu littéraire et intellectuel français. Un journaliste avait posé la question, Flaubert savait-il écrire? Et il avait repéré le nombre de fautes d'orthographe qu'il pouvait y avoir, que ce soit dans l'éducation sentimentale ou dans Madame Bovary. Et son premier correcteur, qui était un de ses amis, Maxime Ducamp, disait parfois à Gustave, en relisant ses manuscrits, « Gustave, tu te fous de la gueule de la grammaire. » Et je pense que ça devrait quand même déculpabiliser, parce qu'on culpabilise les gens qui font des fautes, ce qui est pas très bien, de savoir que, y compris des grands écrivains, enfin quand on sait Flaubert, la folie qu'il mettait à écrire, c'était sa vie entière, faisait des fautes, et qui n'en fait pas.
Et c'était un grand auteur quand même. Donc
et c'était quand même un grand auteur.
Bon, Joshua, faut qu'on vous offre quand même ce livre avant de repartir aux États-Unis parce que vous avez fort à faire avec la langue française quand même. Hein. Ça va, c'est pas trop compliqué pour un Américain d'apprendre notre langue?
C'est un peu compliqué, ouais. Mais bon, comme je disais avant, ça fait 13 ans que j'ai étudié français, mais ce que je me suis rendu compte, c'est, quand je suis arrivé ici, lire, écrire... la grammaire française et parler avec les gens, c'est la langue quotidienne.
Mm-hmm.
C'est pas la même chose.
Ouais.
Quand je suis avec mes colocs, il y a des fois où je comprends rien. Et... non, c'est des textos aussi.
Ouais,
les textos,
sûr,
hein.
Les SMS.
Il y a beaucoup. Pas beaucoup des accents.
Ouais.
Ça, c'est difficile des fois.
Vous voulez dire les accents sur les lettres?
Exactement.
Voilà. Ouais. Ouais.
Grave,
aigu. Le circonflexe le qui est menacé.
Ah oui, il y a eu toute une polémique là-dessus. Alors, le fameux participe passé, justement, à Richard Herlin. Alors, ça, c'est un domaine récurrent des erreurs.
Hein. Oui. Ça, je pense que c'est quand même.
Même pour les Français. Hein.
Oui.
C'est compliqué pour nous aussi.
Oui.
Hein.
Et quotidiennement. Et je pense que de tous les problèmes grammaticaux et de ce qui peut engendrer des erreurs, parce que mes collègues et moi, on préfère parler d'erreurs parce qu'on dit la faute.
Ça vous fait... êtes indulgent. Hein.
Il faut être indulgent, oui, parce que c'est quand même pas pour rien. Je veux dire, ce participe passé, depuis qu'il a été érigé en règle par notre camarade Marot, donc ça fait quand même plusieurs siècles, ça continue d'être une souffrance pour les élèves à l'école.
C'est vrai.
Et par exemple, il y a récemment, régulièrement, l'Éducation nationale fait des enquêtes justement sur le niveau en orthographe des élèves. Alors, je ne vais pas la reprendre dans le détail, mais ce que j'ai vu dans le détail quand même, c'est un texte très très court, mais qui comporte justement un accord de participe passé. Où sont les enfants ? Demandons à Martine, elle les a peut-être vus. Mm-hmm. Comment faut-il accorder vue ?
U ou US ?
U ou US.
Ouais.
Alors, il faut quand même que le gamin, c'est fait auprès de gamins qui ont une dizaine d'années, comprenne que le petit mot qui est les, L-E-S, c'est un pronom qu'il est mis pour les enfants dont on a parlé au-dessus et que du coup, il faut mettre un S. Alors, c'est quand même c'est une gymnastique un peu compliquée pour l'enfant. Et le résultat de cette dernière enquête, alors qu'il dit que, oulala, ça va de plus en plus mal, les enfants font encore plus de fautes qu'il y a 20 ans, quand on regarde dans le détail statistique, je crois que c'est 83% des enfants qui font l'erreur sur le participe passé.
Ouais. Mais alors, comment est-ce qu'on peut finalement arrêter de faire ces erreurs? Parce qu'on a beau nous inculquer...
Supprimons le participe passé.
Nous apprendre les règles, mais c'est une solution. Vous êtes d'accord?
Non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça parce que là, je perds mon boulot parce que quand même, on en corrige beaucoup à longueur de journée. Donc, c'est un peu... Non, puis finalement, moi, j'ai fini. Alors, j'ai eu, je me souviens, alors, c'est pour ça, des fois, je me pose des questions sur est-ce que ça va beaucoup plus mal. Moi, quand j'étais lycéen, j'entendais déjà dire ça, bon, ça remonte à un certain temps, parce que je ne suis pas un jeune chercheur, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, en gros, on va dire, il y a 40 ans, j'entendais déjà la même chose. Et moi, je ne comprenais pas l'accord du participe passé. Je faisais ça de façon un peu esthétique dans les dictées. Je me disais, ouais. Oh, bah, tiens, là, je vais mettre un E. Là, je...
Oui, c'est ça.
Voilà, ouais.
À l'oreille. Ou
à l'oreille, voilà. Ouais. Alors, l'oreille, ça compte beaucoup aussi. Ça, ouais. C'est, par exemple, c'est compliqué quand c'est une personne du féminin. Par exemple, on entend souvent, je me suis permise. Ouais. Et ça paraît logique. Il n'y a pas longtemps, une lectrice du Monde, on a un petit forum de questions auxquelles on essaye de répondre, elle dit, j'ai dit à un de mes collègues, je me suis permis, m'a repris en disant, non, faut dire, je me suis permise. Alors, en fait, c'est elle qui avait raison, même quand c'est au féminin, faut dire, je me suis permis. Mais alors, il faut expliquer le raisonnement grammatical, et ça, c'est pas très simple.
Ouais. Alors, vous êtes un obsédé de la ponctuation, mais en particulier de la virgule. Ah, vous voyez, ouais. L'homme que vous avez en face de vous?
Ben oui, parce que c'est un tout petit signe, comme ça, c'est, et puis, de toute la ponctuation, c'est certainement le plus compliqué à utiliser.
Ouais,
parce qu'il peut changer une phrase. Alors, il y a des exemples drôles. On entendait tout à l'heure la petite séquence de Norman avec tous les supports aujourd'hui comme Twitter, Facebook, etc. Par exemple, si je dis « et si on mangeait les enfants ?» Alors c'est « et si on mangeait, virgule, les enfants ?» Ce qu'on appelle une petite virgule vocative, ah c'est-à-dire oui, à l'appel.
Ça change tout.
Voilà. Mais si j'enlève cette virgule, ça devient
«
et si on mangeait les enfants ?»
Ouais.
Et là, c'est un propos d'ogre.
Oui, absolument. Donc d'où l'importance, effectivement, de cette ponctuation. Le féminin, le masculin, la question de genre, ça on en parlait aussi avec vous. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre dans le livre. Ce qui est incroyable, c'est que vous le disiez tout à l'heure, l'académie elle-même, au fond, n'applique pas les règles. Et empêche la parité, l'égalité en tout cas des genres.
Oui, et puis c'est surtout qu'elle est... Enfin, on est un peu en guerre avec l'académie là, mais elle n'est pas très cohérente parce que finalement, elle a accepté certains féminins au fil du temps. C'est daté, hein, parce qu'elle est toujours sur son dictionnaire, ça lui prend beaucoup de temps, elle doit être arrivée à la lettre G, je pense. Il vaut mieux acheter un autre dictionnaire. Mais elle n'est pas du tout cohérente de ce point de vue-là. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ça aussi que j'entends chez les jeunes chercheurs qui est important, c'est que cette histoire de féminin dit quelque chose du monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'effectivement, à une époque où une femme ne pouvait pas écrire, c'est ce que disait Virginia Woolf quand elle parlait de la sœur de Shakespeare qui n'a pas pu écrire parce qu'elle n'avait pas une chambre à soi. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de bureau. Donc effectivement, ça ne servait à rien de parler d'écrivaine ou d'autrice. Il y en avait très peu. Mais à partir du moment où on a des chercheuses, c'est-à-dire des femmes à qui on permet d'accéder à... Vous avez parlé, ça, et j'ai trouvé ça très important, ce que vous disiez, Marie-Mot, tout à l'heure. Comment on passe de cette plante néfaste,
la jacinthe,
on en fait l'électricité, à un moment, ils vous disent, grâce à l'électricité, on va pouvoir apporter l'éducation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire cette éducation, évidemment, elle doit profiter autant aux femmes qu'aux hommes. Ça paraît évident de le dire aujourd'hui, mais cette position que je n'hésiterai pas à qualifier de réactionnaire de l'Académie française, je trouve que vraiment elle n'a pas lieu d'être, quoi, et qu'aujourd'hui une femme qui fait de... ou alors on fait des périphrases, une femme qui fait de la recherche. Bah non, je dis une chercheuse, une femme qui est, je disais tout à l'heure, directeur, elle est directrice. Aujourd'hui, une femme qui est pharmacienne n'est pas la femme du pharmacien. On a encore des lecteurs qui nous disent ça. Ah bah bravo, vous, vous dites pharmacienne, elle est femme de pharmacien. Bah je dis non, elle a un diplôme en pharmacie.
Mariama, quel regard vous portez-vous sur ces affaires d'orthographe, mais qui sont absolument essentielles aussi, hein,
oui, c'est essentiel.
pour la lutte. Hein.
Oui, pour la lutte même. Parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de femmes et réellement, elles ont besoin du soutien, que ça soit en orthographe et autres, pour que le combat puisse continuer. Et j'avoue que réellement, la situation en Afrique, vu que j'ai eu à sillonner plusieurs pays comme le Burkina, Lomé, le Togo, Cotonou également. Et là, j'ai vu la situation de la femme et réellement, elle a besoin de cet épanouissement plutôt dans sa vie. Et je me dis, ça peut aussi passer par la langue.
Ben, c'est parce que, je peux me permettre juste, c'est que, par exemple, on le voit avec les populations immigrées en France. Pour les femmes, notamment, qui souvent suivent un homme qui lui a un travail, etc., qui reste cantonné à la maison, on voit que les espaces d'alphabétisation, par exemple, sont des espaces très importants pour que la femme, elle aussi, puisse acquérir une autonomie. Si elle n'a pas l'autonomie financière parce qu'elle n'a pas encore de travail, l'accès à la langue française lui permet de s'ouvrir à la société, etc. Donc, c'est vrai que... Alors, ce qui est assez drôle, juste après, je me tais, mais c'est vrai que quand on parle de la féminisation, si je vous parle du participe passé, vous n'allez pas me sentir très militant. Mais pour le féminin, on est, alors c'est juste une question de langue, on est obligé d'être militant, quoi. C'est faut le défendre.
Voilà. Richard Herlin, il y a une dernière question pour vous du sociologue Gérald Bronner sur son compte Facebook aujourd'hui. Il dit ceci: ces derniers temps, un problème d'orthographe me trouble. Doit-on écrire attaché parlementaire ou attaché parlementeur? Voilà, c'est pour vous et pour terminer.
Je vous laisse deviner.
Retour sur l'accord du participe passé, c'est aux éditions Flammarion.
La tête au carré. Le club.
Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des petits vertiges.
Oui, 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 quelques vertiges. Oui, je crois que en plus, je souffre d'une baisse d'audition dans mon oreille droite. Non, mon oreille gauche. Enfin, ma gauche, enfin, je sais plus quoi. Ou ma gauche ou ma droite. Enfin,
ah, je me souviens plus. Eh bien, on va voir ça.
Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Olivier Marchand, réalisateur, écrivain et auteur donc de ce livre, dont le titre a retenu notre attention, le 30 février et autres curiosités de la mesure du temps, c'est aux éditions du Seuil. Vous avez un parcours de scientifique d'ailleurs au départ, hein ?
Oui, j'ai une maîtrise de physique fondamentale.
Hein. Ouais, bah c'est pas mal.
Je m'en suis écarté assez rapidement. C'est assez marrant parce que ça finit par m'attraper.
Oui,
je me posais la question à l'époque de faire de la vulgarisation scientifique. Mon chemin m'a emmené totalement ailleurs, vers le cinéma, puis la réalisation, et puis de fil en aiguille.
Vous y revenez un petit peu.
J'y reviens un petit peu, ouais.
Bah, c'est exactement ce que vous faites. Alors, dans ce livre, alors, qui non seulement est très amusant, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'anecdotes sur tous les aspects de la mesure du temps, mais aussi, c'est cette histoire que vous racontez sur la façon dont les hommes ont dû maîtriser, justement, la mesure du temps. Et ça, c'est la grande histoire, au fond.
Hein. C'est un peu la grande histoire. Pour moi, il y a deux phases, d'ailleurs, dans cette volonté de mesure du temps. Il y a d'abord la manière dont on va mesurer les mouvements des astres les uns par rapport aux autres, parce que c'est finalement ça qui nous donne le « là », hein, la Terre autour du Soleil, la Lune autour de la Terre, et c'est là-dessus d'abord qu'on se cale. Il y a une grande partie, on va dire, des recherches de la mesure du temps, qui est de calculer exactement, enfin de mesurer exactement la bonne année, voilà, combien de temps fait-elle, et puis il faut mesurer aussi la bonne journée. Et puis une fois qu'on a réussi en fait à mesurer tout ça, on s'aperçoit que les outils de mesure du temps qu'on a développés sont beaucoup plus précis en fait que les astres. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir si on va pas découpler totalement notre mesure du temps de la mesure des astres.
Ouais, à l'heure des horloges atomiques, en
plus. À l'heure des horloges atomiques,
la précision est phénoménale.
Aujourd'hui, on a des horloges atomiques qui mesurent le temps. Ouais. Il se trouve que ces horloges atomiques sont plus précises que les mouvements des astres les uns par rapport aux autres. En gros, on a des décalages qu'on doit rattraper régulièrement par des secondes intercalaires. Ouais. On en a eu une, d'ailleurs, à la fin de l'année 2016. Et il y a un débat aujourd'hui au niveau mondial sur va-t-on abandonner cette seconde intercalaire régulière qui perturbe les systèmes informatiques.
Absolument. Est-ce qu'au fond, la grande difficulté au cours de l'histoire, ça a été de mettre le monde au même diapason ?
Alors oui, effectivement, puisque au début, alors mon livre ne s'intéresse qu'à la manière dont on compte le temps en Occident. Je suis occidental, ça m'intéressait, c'est le système de mesure dominant. Donc je suis pas allé m'intéresser aux autres systèmes. Mais effectivement, au sein de ce monde occidental, il a fallu d'abord se mettre d'accord sur la manière dont on mesurait le temps. Il y a en particulier un grand moment dans l'histoire qui est le passage du calendrier julien au calendrier grégorien. Le calendrier julien était relativement inexact. Il se décalait par rapport à l'année. Et on a au bout d'un moment, il accusait un retard de 13 jours sur la course du soleil.
Donc, à l'initiative de Jules César.
Le calendrier julien a été créé par Jules César. Et puis Grégoire XIII crée le calendrier grégorien pour rattraper ce décalage. Et il se trouve que les protestants, en gros, et les catholiques ne sont pas d'accord. Les catholiques passent au calendrier grégorien, les protestants restent au calendrier julien. Et pendant un siècle, l'Europe a été coupée en deux.
Incroyable.
Et on a eu deux calendriers régissant la vie des Européens, ou des Occidentaux, ou des chrétiens. Et ces deux calendriers étaient décalés de 10 jours.
Ouais. Voilà. Alors comment on a résolu le problème, justement ?
Tout simplement, les protestants et les orthodoxes, plus tard, ont fini par se rendre à l'évidence. Comme disait Johannes Kepler, les protestants préfèrent être en désaccord avec le pape plutôt que d'accord avec le pape. C'était bien le fond du problème, c'était un problème idéologique avant tout. Mais évidemment, au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'ils étaient effectivement en retard sur la course du soleil, donc ils ont fini par adopter le calendrier grégorien.
Alors, dans des pays très grands, comme celui de Joshua, justement, aux États-Unis. Alors, la mesure du temps, c'était un vrai casse-tête. Et pour la Russie, exactement la même chose, justement, parce qu'on a un pays avec plusieurs fuseaux horaires.
Alors, les États-Unis, justement, ont inventé les fuseaux horaires grâce au train. S'il n'y avait pas eu un pays aussi grand et, j'allais dire, aussi en avance, peut-être, dans le domaine industriel, on n'aurait peut-être pas les fuseaux horaires. Enfin, si.
L'histoire est très marrante parce que, effectivement, ce sont les trains qui ont permis ça.
Ce sont les trains qui ont obligé à ça. Il se trouve que quand on invente le train, il faut évidemment des horaires. Or, vous traversez des zones dans lesquelles les heures locales sont différentes. Évidemment, il n'y avait aucun intérêt à avoir des heures équivalentes entre Washington et Baltimore, alors qu'on était à peu près au même endroit. Mais chacun mettait le midi au moment du zénith du soleil. Donc, on pouvait avoir des décalages de 3 minutes entre des villes. Donc, par exemple, entre Baltimore et New York, il y avait 3 minutes ou 6 minutes de décalage, je ne sais plus. Bon, voilà. Si vous avez un train qui va de New York à Baltimore, ça crée évidemment des soucis. Donc, on a commencé par mettre des horaires uniforme sur les lignes, mais alors ça devenait des casse-têtes parce que vous aviez l'heure locale de la ville dans laquelle vous débarquiez en train et l'heure du train. Moyennant quoi,
pour donner rendez-vous, c'était pas facile.
Pour donner rendez-vous, c'était pas facile. Sachant qu'en plus vous aviez donc 70 compagnies de train en Amérique du Nord, ça faisait des horaires de train extrêmement compliqués parce qu'évidemment la ligne du train n'était jamais la même au bon endroit. Enfin bref, et quand les lignes se croisaient, bon, vous pouviez avoir 3 horaires au même endroit, les deux horaires des deux lignes et l'horaire de la ville. Donc, pour prendre sa correspondance, c'était un vrai casse-tête. Donc, on a imaginé les fuseaux horaires. On a décidé, au bout d'un moment, qu'il faudrait que dans une zone, telle zone géographique, on serait à telle heure, dans une autre à telle heure, dans une autre à telle heure. Et ça a simplifié, évidemment.
Ça a changé la face du monde.
Ça a changé la face du monde, la face des États-Unis dans un premier
absolument.
Temps.
Absolument.
Et puis, ce système de fuseaux horaires s'est ensuite étendu au monde de manière assez logique. Tout le monde l'a adopté.
Alors, on voit les enjeux politiques aussi, autour de la mesure du temps, parce que là on a des histoires assez amusantes, mais quand même.
Alors effectivement, maîtriser le temps, c'est maîtriser les hommes, finalement, à la Révolution française, on connaît ça bien évidemment en France, on a essayé d'instituer le calendrier révolutionnaire, enfin le calendrier républicain en fait, très précisément, plus précisément. Et une autre histoire qui est un petit peu moins connue, qui est celle de la semaine de travail soviétique.
Oui, la semaine de 5 jours.
La semaine de 5 jours, en fait, à la toute fin des années 20, début des années 30, Staline a réussi à imposer en Union soviétique quelque chose qui serait considéré comme un cauchemar par les communistes du monde entier aujourd'hui, mais bon, Staline l'a fait. C'était une semaine de 5 jours qu'on appelait ininterrompue, et pendant laquelle, chaque jour, 80% des travailleurs étaient au travail, 20% étaient au repos. Voilà, ce qui permettait de faire tourner l'outil de production 7 jours sur 7, puis avec des roulements en plus, avec des 3-8, 24 heures sur 24. Et donc, par ce biais, Staline essayait de rattraper le retard industriel de l'Union soviétique et de faire avancer son pays à marche forcée. Ça n'a pas marché du tout, parce que finalement, mon interprétation, c'est que c'est installé une sorte de système d'intérim permanent. Si vous êtes au repos, sachant que tous vos copains sont au travail, bah vous vous démotivez un tout petit peu parce que vous avez l'impression d'être un peu un pion. Et puis, ça a posé des questions d'ordre social aussi très compliquées parce que, évidemment, votre conjoint pouvait ne pas être au travail au même moment, même vos enfants pouvaient aller à l'école à un autre moment. Bref,
casse-tête.
Ça a un peu organisé. Voilà,
exactement. Olivier Marchand, qu'est-ce qui s'est passé le 30 décembre 2011 exactement? Alors, parce que c'est une date à...
30 décembre 2011. Aux îles Samoa, il ne s'est rien passé justement parce que
ça n'existe pas.
Le 30 décembre 2011 n'a pas existé.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
En fait, les îles Samoa, enfin plutôt les Samoa, donc le pays, parce qu'il y a les Samoa américaines et il y a les îles Samoa, qui n'est pas le même pays, les Samoa américaines appartiennent aux États-Unis. Les îles Samoa ont décidé de passer de l'autre côté de la ligne de changement de date. Alors je ne sais plus exactement dans quel sens, c'est un petit peu compliqué de se rappeler, mais je crois ils étaient avant à l'est de la ligne de changement de date, donc du côté américain, ils ont décidé de passer du côté ouest, c'est-à-dire plus proche de l'Australie et de l'Asie.
Et donc ils ont disparu au passage.
Ils ont été obligés de supprimer un jour au passage. Ouais. Voilà.
On va écouter l'extrait d'un documentaire, une archive INA qui date de 1965 sur la mesure du temps et justement on en parlait de l'horloge atomique.
Qu'est-ce exactement qu'une horloge atomique?
Vous savez, les premières horloges étaient obtenues en faisant osciller un balancier de pendule. Et c'est la période de ce balancier qui fixait la seconde de temps, l'étalon de temps. Et puis, ensuite, le balancier n'étant pas assez précis, on a fait des horloges à quartz. Et puis, ces variations de fréquence du quartz ne sont pas non plus maintenant assez précises. On a trouvé que la chose la plus précise, c'était encore la vibration d'un atome lui-même. Et par conséquent, sur lequel on peut fixer un étalon de temps avec une très grande précision.
Au quatrième top, il sera exactement 19h. 16 minutes.
Voilà, Olivier Marchand, l'horloge atomique, avec la précision absolue aujourd'hui qui est nécessaire et qui nous, vous le disiez, nous oblige à quelques ajustements régulièrement.
L'invention des horloges atomiques a permis l'invention du temps universel coordonné, UTC, qui est celui qui régit, on va dire, le temps dans le monde aujourd'hui. Tout le monde est sur UTC, vos smartphones sont sur UTC, les ordinateurs sont sur UTC, on est tous branchés, en fait, par un biais ou par un autre, sur ces horloges atomiques, par des système de relais. Voilà. Mais il se trouve que ce temps est trop précis. Pourquoi ? Parce que la seconde qu'on a étalonnée dans les horloges atomiques est trop courte. On est allé chercher une seconde qui a été mesurée en 1820, à une époque où la Terre tournait plus rapidement. Ouais. Or, la Terre a ralenti depuis. Donc du coup, maintenant, la seconde est trop courte et la Terre tourne plus lentement. Donc on est obligé de rajouter une seconde régulièrement pour rattraper la course de la Terre.
Et c'est l'histoire de la mesure du temps, au fond. Ces ajustements permanents.
C'est exactement ça.
Depuis des siècles et des siècles.
Exactement.
Voilà.
C'est le fruit d'une science exacte au contact d'un monde qui ne l'est pas.
Et ça s'appelle le 30 février. Autre curiosité de la mesure du temps, c'est aux éditions du Seuil et vous en êtes l'auteur, Olivier Marchand. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Je rappelle cet ouvrage, le retour sur le participe passé, sur cet accord. Ça, c'est aux éditions Flammarion, Richard Herlin. Et puis, bon retour à nos invités nigériens et américains après cette semaine donc, de jeunes talents scientifiques que vous avez passé donc, à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Bonne fin de visite donc, cet après-midi avec le Musée de l'Homme. Merci beaucoup à tous d'être venus et passez un excellent week-end. Dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel, le juge Michel au cœur de la fiction de ce vendredi.